Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 29 mars 2021 et on est toujours un peu dans la même thématique en ce moment, hein. Donc toujours beaucoup d'hésitations au niveau de l'inflation, au niveau du stimulus. Donc notre cœur balance entre finalement cette peur de l'inflation qui nous revient régulièrement et ce soulagement alternatif qu'on peut avoir de temps en temps avec l'arrivée d'un stimulus, avec l'augmentation du nombre de personnes vaccinées aux États-Unis, avec Biden qui vient régulièrement nous brandir son stimulus de 3000 milliards sur les infrastructures qui motive un peu tout le monde. Donc en fait, le gros sentiment qui me pèse aujourd'hui, c'est vraiment cette impression que le marché peut partir dans un sens comme dans l'autre très rapidement. D'un point de vue technique, on est en train de buter sur les résistances de 4000 plus ou moins sur le S&P 500. Si ça venait à casser, je pense que psychologiquement, on peut facilement accélérer assez rapidement en s'appuyant sur les éternelles théories du soutien indéfectible des banques centrales, des taux à zéro et des stimulus qui arrivent. Et puis, d'un autre côté, eh bien, on a de quoi se dire aussi, mais en même temps, il y a beaucoup de signaux comme quoi le marché est fatigué. On a l'impression qu'on est très très haut, que c'est pas bon marché. Et puis que maintenant, il va falloir quand même délivrer ces théories du recovery qu'on a anticipées depuis 12 mois. Et si on regarde un petit peu certains graphiques, il y a un graphique qui a été publié récemment qui donne que le sentiment bullish qui est calculé par certaines moyennes mobiles et le nombre de titres qui est supérieur à la moyenne mobile des 200 jours nous donne 94% d'extrême bullishness, donc ce qui veut dire que les gens sont très 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 bull, ce qui en général est jamais une très 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 bonne nouvelle. Donc voilà, il y a des doutes là-dessus. Il y a suffisamment d'exemples d'aberrations de marché qu'on a vécu ces derniers temps qui peuvent expliquer aussi ou donner un nouveau signal d'alarme de ce côté-là. Donc il y a vraiment de quoi faire des deux côtés. Les vols sont pas très très élevés et donc j'ai vraiment le sentiment que le marché peut partir dans un sens comme dans l'autre, assez rapidement. Il suffirait que les gens aient peur d'un coup de rater le train et qu'ils commencent à galoper derrière. Il y a une histoire dont on va beaucoup parler, je pense, ces prochains jours. On a déjà commencé à parler depuis la semaine dernière, mais à partir de maintenant, là, il y a vraiment des conséquences assez flagrantes. Donc, du coup, les gens en parlent beaucoup. C'est l'affaire Archegos. Alors, Archegos, c'est encore un hedge fund avec des positions monstrueuses. Et depuis le début de la semaine, enfin la fin de la semaine dernière, ils ont commencé à démonter de leur position de manière assez violente avec une apogée dans le démontage de ces positions qui a eu lieu vendredi soir sur des titres comme Viacom, Discovery, Baidu, Tencent, Tencent Music et Iki. Donc qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Ben, en fait, à la base, il y a Viacom qui a fait un placement de 3 milliards de titres, 3 milliards de valeurs, je crois, plus ou moins. Le titre a fait 400% ces derniers mois, donc du coup, ben, la boîte s'est dit, on va prendre un peu de cash pour développer la société en vendant des titres. Cette vente de titres à discount a forcément mis la pression sur le titre et ce fonds était majoritairement investi dans Viacom, mais en marge. Donc en levier, c'est-à-dire que, par exemple, si vous achetez des titres pour 100 balles, vous achetez des titres pour 100 balles. Si vous mettez 100 balles, vous achetez 100 balles de titres. Et ben eux, ils achètent pour 100, ils achètent 500 ou 1000, ce qu'on appelle en leverage ou en marge. Donc du coup, ben quand ça commence à baisser très vite, ben ça baisse d'autant plus vite que de la marge que vous avez pris. Donc si vous avez fait x5, ben ça va 5 fois plus vite. Donc forcément, il y a eu un espèce d'effet boule de neige. Les banques ont demandé à Archegos de liquider les positions parce qu'ils étaient en appel de marge. Archegos a liquidé les positions, mais quand vous avez des positions monstrueuses et puis qu'il faut le faire très très vite, il faut faire ce qu'on appelle des block trades. Donc ils ont été chercher dans le marché qui pouvait faire des block trades. Ils ont trouvé des solutions, mais du coup on leur a fait des prix. Ça a fait démonter littéralement le titre. On a Viacom qui a perdu 2 fois 30% en 2 jours. Même chose sur Discovery. Et puis vous regardez un peu sur les autres boîtes comme Baidu, Tencent Music, Wiki, c'est pareil. Donc gros sell-off là-dessus à cause des appels de marge. Il n'y a rien de fondamental sur la baisse, il n'y a rien qui justifie la pression monumentale qu'on a mise sur ces titres, en tout cas d'un point de vue fondamental, puisque finalement beaucoup de gens s'étaient repositionnés sur Viacom en disant oui c'est du fondamental, c'est du value, c'est du média, tranquille, tout va aller très très bien ces prochains mois. Et là tout d'un coup il y a un gros client qui balance des positions monstrueuses. Et on n'a pas réussi à absorber la chose. Alors, quand on parle de position, c'est que les ventes de vendredi soir correspondent à 10,5 milliards de dollars de ventes massives sur ces titres-là. Donc, grosse pression vendeuse. Et aujourd'hui, c'est difficile sur quelques minutes de faire absorber autant de titres au marché. Donc, c'est un bon exemple de voir ce qui peut se passer dans l'effet des appels de marge. Les appels de marge, on a déjà beaucoup vécu ce genre de choses. On a créé la période des subprimes à l'époque où quand tout d'un coup ça commence à baisser puis que beaucoup de gens jouent en marge. Donc grosso modo au casino, encore une fois, finalement c'est comme si vous rentrez au casino sans un rond et puis on vous prête 1000 balles pour jouer. Et puis quand vous avez perdu vos 1000 balles, vous devez les rembourser, voire pire. Donc du coup, on a ce marché qui a démontré aussi ses limites. Ça revient sur le fait aussi qu'on voit très bien que si tout d'un coup ça tourne vinaigre, ça va être très très difficile de stopper l'avalanche, parce que c'est pas le seul qui doit être mal pris dans ce genre de situation. Et donc du coup, ça peut aussi avoir des conséquences à moyen terme sur le marché en général si les choses venaient à péricliter à nouveau dans l'autre sens. C'est ce qui me fait dire aussi, c'est que ce marché peut partir très bien à la hausse parce que les gens ont peur de rater la hausse, et très très violemment à la baisse parce qu'il y a aussi des effets mécaniques qui font que ça peut baisser très très fort. Pour le reste, la question du jour qu'on m'a posée, c'était de savoir ce que je pensais de Basilea, parce qu'elle ne fout strictement rien ces derniers temps. Pour faire simple, Basilea est une biotech qui a des développements de médicaments très prometteurs sur le cancer, qui ont eu pas mal de bonnes nouvelles là-dessus ces derniers temps, mais là-dessus, le titre ne monte pas. Donc la personne qui me pose la question me disait, mais comment ça se fait ? Il n'y a pas d'explication hyper rationnelle. On va dire déjà, la première chose, c'est que Basilea ne gagne pas d'argent. Donc aujourd'hui, elle se traite dans la zone des 44, 45 francs suisses. Pour moi, c'est clairement à des niveaux où on peut essayer de la jouer en trading, parce qu'on voit qu'elle fait des spikes sur des brefs moments en direction des 60, et puis que la zone des 43 est un gros support. Donc ça me paraît plutôt tendanciellement positif de jouer Basilea dans ce range-là, en disant j'achète autour de 44-45, je joue en direction des 60, et si ça en descend en dessous des 43, je me stoppe. C'est un bon moyen d'essayer de la jouer. Après, pourquoi est-ce que ça ne monte pas ? La plupart des analystes ont des targets au niveau des 60 francs sur le titre, donc on pourrait s'attendre à un peu mieux que ça. La problématique, c'est que voilà, la boîte ne gagne pas d'argent, ils ont eu les derniers résultats annuels n'étaient pas waouh. On sait que si on fait des projections sur tout ce qu'ils espèrent pouvoir vendre d'ici 2 ans, ils devraient être break-even, on parle de 2023. Donc pour l'instant, c'est pas un play fondamental, ça reste un play assez agressif. Et puis la problématique aujourd'hui, c'est que quand vous regardez un petit peu les biotech qui cartonnent dans le marché, c'est pas forcément les biotech qui font de la recherche contre le cancer, puisque malheureusement aujourd'hui, le cancer, tout le monde s'en fout. La seule chose qui regarde, ce que le marché regarde finalement, c'est le Covid. Donc on le voit très bien, même sur les grosses pharma, si vous n'êtes pas impliqué dans la recherche anti-Covid, il n'y a pas ou peu d'intérêt de la part du marché. C'est peut-être là-dedans qu'il faut chercher la réponse à cette question, ou à cette faiblesse relative de Basilea par rapport au reste du marché. Mais autrement, c'est difficile de donner une réponse plus claire ou plus concise, parce que je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un intérêt qui est assez faible sur la valeur, malgré effectivement les bonnes nouvelles pour l'instant. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent dans ce podcast du lundi matin. Je rappelle encore qu'il y aura les chiffres des non-farm payroll en fin de semaine aux États-Unis vendredi, bien que le marché sera fermé. Le marché américain sera fermé vendredi pour le vendredi saint. Par contre, il sera ouvert pour le lundi de Pâques, à l'inverse des marchés européens, sauf erreur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve demain matin.